Alors, après avoir rencontré une femme, souvenez-vous, une migrante, une étrangère, dimanche dernier, dans la personne de Ruth, je vous invite ce matin à partir à la rencontre d'un homme. Alors, pas un jeune homme, comme beaucoup de traductions de nos Bibles titrent cette histoire, le jeune homme riche, rien ne nous dit qu'il est jeune. Hein. En tout cas, c'est un homme et on ignore beaucoup de lui. Il est anonyme, on ne sait pas son nom. Il court vers Jésus et va se prosterner à ses genoux en le questionnant. La plupart du temps, quand un homme ou une femme rencontre Jésus, ils vont demander quoi en général? Qu'est-ce qu'on demande à Jésus? Une guérison, un miracle. Et là, cet homme ne va demander ni l'un ni l'autre. Il va poser une question très personnelle. Qu'est-ce que je dois faire, bon maître, pour avoir la vie pour toujours? Voilà un homme plein de bonne volonté, et encore mieux, il est en quête de quelque chose. Il sait qu'il lui manque quelque chose au plus profond de lui pour que sa vie s'accomplisse. Et il vient le chercher près de Jésus. Alors, notre Jésus, il reste fidèle à lui-même dans ce texte. Que fait Jésus dans les évangiles quand quelqu'un lui pose une question? Alors, il ne lui répond pas, il lui pose une autre question. Voilà, ça c'est Jésus, c'est très classique. Alors donc, il reste fidèle à lui-même. Et il va d'abord, avant de lui poser une deuxième question, lui rappeler sa propre condition humaine. Pourquoi m'appelles-tu bon? Seul Dieu est bon. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, ben, même moi, je ne suis pas complètement bon. Je suis Dieu, mais je suis aussi homme. Et il le renvoie à Dieu seul. Alors, il lui signifie ainsi que c'est en allant vers Dieu qu'il pourra trouver la réponse à sa question. Et ce chemin passe par une suivance, une obéissance à Dieu. Alors Jésus lui rappelle la loi. Te rappelles-tu ce que demande la loi? Alors la loi, on le traduit souvent comme ça, mais on devrait dire la parole. Hein, la loi, c'est les 10 commandements, mais c'est plutôt les 10 paroles exactement en hébreu. Alors là, il lui redit tous ses commandements. Et puis notre homme, très bon élève, eh bien lui, depuis qu'il est jeune, il fait tout ça. Hein, il n'y a pas de problème. Il a bien obéi à toutes les paroles que Dieu lui a données. La réponse et l'attitude de l'homme suscitent pour Jésus une attention particulière, un regard pénétrant. Jésus reconnaît en lui un authentique chercheur de Dieu. Il reconnaît que cet homme a besoin de plus que de biens, plus que d'argent. Il a besoin d'un amour, de quelque chose de plus profond pour sa vie. Parce qu'il a vu son cœur, Jésus va lever la barrière qui empêche l'homme de trouver la paix. Il va lui adresser sa vocation, qui est celle de le suivre. Mais cet appel est néanmoins soumis à quelques conditions. Alors arrive cette parole radicale de Jésus. Il te manque une chose. Va, vends tout ce que tu as et suis-moi. Jésus l'invite sans détour à changer de vie. Car sa vie d'aujourd'hui, sa vie personnelle, dans son intimité, l'empêche de tout recevoir de la part de Dieu. Vendre est la première démarche pour quitter la vie passée. Donner sera le premier geste vers le royaume de Dieu. Vendre et donner, c'est changer la nature de son trésor, passer des biens terrestres à la vie en Dieu. À cet homme qui cherche une sorte de passeport pour la vie éternelle, Jésus lui fait découvrir que la question ne se situe pas dans l'après-mort, mais dans l'aujourd'hui. Et ça aussi, c'est très classique de la part de Jésus. L'histoire des histoires de vie éternelle, c'est pas demain, c'est aujourd'hui. La vie éternelle commence aujourd'hui. Et à ces mots, l'homme a compris l'immensité de la tâche qui l'attend. Et qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'on nous dit dans ce texte? Quelle est la réaction de l'homme? Il s'en va et dans quelle attitude? Triste. Il connaît les difficultés à surmonter. Il imagine déjà les réflexions de ses proches. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Tu es devenu complètement fou. Il sait que cela va lui prendre du temps pour réaliser ce nouveau trésor de sa vie. Les difficultés sont à la hauteur de sa fortune. Alors il s'en va. C'est ce que Jésus lui dit. Va. Hein? Certains disent il s'en va parce qu'il ne pourra pas faire. Mais non, Jésus lui dit va. Donc il s'en va. Il retourne chez lui. Et il est triste effectivement parce qu'il aura beaucoup de renoncements à faire. Alors, est-ce que cet homme va y arriver? Est-ce que le texte nous dit si cet homme y arrive ou pas? Non. Le récit de Marc ne dit rien sur l'homme. Est-ce qu'il va le faire ou ne pas le faire? Le texte ensuite nous parle des disciples, qui sont eux aussi témoins de la rencontre et qui vont eux aussi s'assombrir et devenir bien inquiets par rapport à ce qui s'est passé entre l'homme et Jésus. Pourrons-nous, nous aussi, être sauvés? Voilà la question des disciples. C'est la même que celle de l'homme. Les disciples ont compris que même s'ils sont disciples, rien n'est gagné pour eux. À notre anonyme du début, répond ici le tout homme de Jésus. Tous ceux, toutes celles qui veulent le suivre. Et Jésus le dit, nul ne peut se sauver lui-même. Les paroles de Jésus sont aussi radicales pour les disciples qu'elles l'étaient pour l'homme, elles le sont aussi pour chacun de nous. L'impossibilité humaine de nous sauver tout seul. Nous ne pouvons pas tout seul nous départir, nous ne pouvons pas tout seul nous débarrasser de nos peurs, de nos manquements, de nos questions, de nos obscurités. La confiance est nécessaire. C'est notre manière d'être devant Dieu et avec lui qui va nous permettre de vivre libre. Faire confiance malgré tout, souvenez-vous dimanche dernier, c'est ce qu'a fait Ruth. Ruth l'étrangère, la migrante, qui a décidé de tout quitter pour suivre sa belle-mère et son Dieu. Elle a choisi la confiance et elle a reçu la grâce de Dieu. Revenons à notre homme riche. En grec, riche signifie être plein. Alors bien sûr, les enfants nous l'ont dit, on peut être plein de différentes choses, plein d'argent, plein de savoir, de diplômes, de bêtises, plein d'idées, d'imagination, plein d'orgueil, plein d'amis. On peut être plein de tout un tas de choses. Mais finalement, peu importe ce qui nous remplit. Là n'est pas l'essentiel de ce texte. Ce qui est embêtant, c'est quand le plein nous empêche de recevoir l'amour de Dieu dans nos vies. Ce texte n'est pas contre les personnes riches, pas du tout. Parfois, on l'a compris comme cela, mais ce n'est pas ça qu'il dit, ce texte. Il dit seulement, laissez de la place pour que Dieu habite en vous. Et finalement, je crois que notre homme, dans le texte, n'est pas si riche que cela, puisqu'il a trouvé qu'il lui manquait quelque chose pour aller à la rencontre de Jésus. C'est lui-même qui a pris l'initiative d'aller dire à Jésus, « Que dois-je faire? Il me manque quelque chose. » Il y a bien une espérance qu'il a mise en route. Et tout va devenir possible pour lui parce que Dieu, en Jésus-Christ, va décider de s'en mêler. Jésus dit à l'homme, va, un va plein de confiance. Jésus lui dit, va, moi aussi je te fais confiance. Je sais que tout va changer pour toi, tu vas y arriver. L'homme s'en va et il a tout reçu, il a déjà reçu l'amour de Jésus. Qui va l'aider. Il sait maintenant pourquoi et il sait où il va. Mais bien sûr, cela va peut-être prendre du temps. Mais en même temps, Jésus ne lui dit pas tout de suite, va tout de suite vendre et puis reviens dans quelques heures. Hein ? Il y a ce temps possible. Peut-être que ça va prendre toute une vie, Peut-être que cet homme ne reviendra qu'au seuil de sa mort au pied du Christ. Mais en tout cas, il reviendra. Il a un but à atteindre et une direction à suivre. Il vient de recevoir la grâce de Dieu pour toute sa vie. L'amour est patient. L'amour de Dieu pour chacun de nous nous laisse du temps. Le temps d'avancer, chacun à notre rythme, chacun sur nos chemins. L'amour n'exige pas. Il invite. Il ouvre une porte. Il marche à côté de nous. L'homme est touché par la grâce de Dieu, mais tout reste à faire. Et il n'y a pas de grâce facile. Vous connaissez peut-être Dietrich Bonhoeffer, ce théologien allemand, pasteur, qui est mort assassiné pour avoir comploté avec d'autres la mort d'Hitler, et qui affirme que la grâce n'est jamais sans effet. Quand nous nous apercevons de la présence de Dieu à nos côtés, il est impossible de continuer à vivre comme s'il n'était pas là. C'est cela, la grâce qui oblige, selon les mots de Bonhoeffer. Je ne peux pas vivre n'importe comment, je ne peux plus vivre comme si je n'avais rien reçu dans ma vie. Touché par Dieu, je vis désormais en sa présence. La grâce coûte à cet homme de notre histoire. Elle lui coûte toute sa vie passée, c'est le prix à payer. Il sait que ce prix est lourd, c'est pourquoi sa tristesse est grande. Mais l'homme entre sur un nouveau chemin, celui de la libération, et il sait qu'il n'est pas seul. Dieu va lutter avec lui, il est là à ses côtés. Ce qui lui semble impossible aujourd'hui, tellement la tâche est grande, Dieu va l'aider à le faire, car pour Dieu, tout est possible. L'amour va grandir, il va lever les obstacles. Il va avec la confiance que Jésus lui donne. Et il lui suffit maintenant de laisser Dieu le conduire et de le laisser se façonner par Dieu. Nous sommes cet homme. Nous sommes cet homme à qui il manque. Nous sommes en demande. Nous sommes au pied de notre Seigneur en lui demandant « Viens nous combler, viens remplir nos manques ». Et dans cette immensité de notre tâche, ce qui peut nous sembler impossible aujourd'hui, Dieu va nous aider à le faire. Car son amour ouvre la vie éternelle. La paix qu'il nous donne va grandir. Sa confiance va lever les obstacles. Nous pouvons avancer dans cette paix qui nous est donnée. Il nous suffit maintenant de laisser Dieu nous conduire et de le laisser nous façonner. Faisons confiance à cet homme. Nous sommes cet homme. Nous sommes ces femmes et ces hommes qui avons besoin de l'amour de Dieu chaque jour pour nos vies. Que la paix de Dieu soit notre rocher, qu'elle soit notre force et notre chemin. Amen. Thank you.